I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Plus on avance et plus on découvre de nouvelles choses. Prenons un exemple, le mot de Clubhouse. À 20 ans, il m'évoquait plutôt ceci. Et oui, l'ambiance des boîtes de nuit, ça manque. Enfin, moi, ça va, mais je sais que pour Willy, mon réalisateur, sans les 7 du samedi soir, la vie manque un peu de sel. Puis un peu plus tard, devenu trentenaire, Clubhouse, pour moi, c'était plutôt ça.
Come on, everybody. Sing the Clubhouse Rainbow song with us, okay? Are you ready?
Red, orange, yellow, green, blue. Don't forget there's purple too. Rainbow colors for me.
Hello.
La maison de Mickey, The Mickey Mouse Clubhouse pour les intimes, dont mes enfants raffolaient petits. Heureusement, ils ont bien grandi depuis. Enfin, à la lecture du dernier numéro des Echo Weekend, je me suis aussi rendu compte que pour de plus en plus de gens, Clubhouse, c'était ça.
But there's one that is gaining some pretty decent traction. Clubhouse. I'll walk you through the app in a minute, but the key thing that separates it from other social media apps is it's audio only.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va se pencher aujourd'hui sur l'application présentée comme la nouvelle star des réseaux sociaux, enfin pour ceux qui y sont invités. C'est le nouveau réseau social à la mode dans la Silicon Valley. Clubhouse n'en est pas encore à faire de l'ombre aux géants Facebook, Instagram ou Twitter et à leurs milliards d'utilisateurs, mais elle est devenue l'application dont tout le monde parle outre-Atlantique, notamment dans les milieux de la tech ou de la culture. Il y a quelques jours, la société d'études App Annie a révélé que Clubhouse avait franchi le cap des 8 millions de téléchargements. Pas mal pour une application qui n'existait pas il y a un an, et qui n'est disponible que sur la plateforme d'Apple. Mieux, entre le 1er et le 16 février, l'appli a gagné pas moins de 3,5 millions de téléchargements, notamment dans des pays où elle devient très populaire, comme l'Allemagne, le Japon, le Brésil ou la Turquie. De retour de Californie, Anaïs Moutot, journaliste aux Echo Weekend, a vu émerger ce réseau social d'un genre nouveau.
Au printemps dernier, j'étais encore en Californie, à San Francisco, et j'ai vu pas mal d'entrepreneurs et de capital risqueurs que je suis sur Twitter se mettre à parler sans cesse de Clubhouse. Donc soit pour réclamer une invitation de manière un peu désespérée, soit pour les heureux élus qui étaient déjà invités, poster des analyses sur pourquoi c'était hyper innovant comme réseau social, ou des captures d'écran des stars de la tech avec qui ils s'étaient retrouvés à discuter à 23h, ou des captures d'écran montrant qu'ils y avaient passé 20 heures cette semaine, 25 heures, et puis dans les commentaires, il y avait une sorte de concours avec une surenchère, chacun, moi j'y ai passé 30 heures, etc. Donc en fait, c'est vite devenu une sorte de nouveau marqueur social de montrer qu'on avait eu une invitation sur Clubhouse et qu'on y était très présent.
Théo se la raconte. Oui, mais mes couches à moi ont des attaches extensibles. Les miennes aussi, dit Max. Théo s'énerve avec ses petites mains potelées.
Oui, mais les miennes.
Ça me fait un peu penser à cette pub pour les couches culottes sur moi je. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette application?
En fait, c'est un réseau social qui propose aux participants de discuter entre eux, mais à l'oral seulement. Donc, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de texte, de message, etc. C'est un peu comme des émissions de radio improvisées ou un coup de fil géant. Il y en a d'ailleurs qui ont ressorti des pubs télé pour un service comme ça qui existait dans les années 90 qui s'appelait Party Line, où on s'appelait via le téléphone à l'ancienne. Donc en gros, pour décrire le fonctionnement, vous ouvrez l'application et là vous voyez différentes rooms, c'est-à-dire des salons de discussion que n'importe qui, y compris vous, l'utilisateur de l'application, pouvait créer sur tous les sujets possibles et imaginables. Et là, le créateur de la room peut inviter des speakers. Et en principe, n'importe qui dans l'audience peut lever la main pour participer à la conversation.
Bored again? Interested in a new way to meet people? Just pick up a phone and dial
1-9-7-6-8-5-8-5.
There's a party waiting for you. It's the party line. Talk with up to 8 teens or adults 24 hours a day, 7 days a week.
1-9-7-6-8-5-8-5.
Vous parliez de Party Line avec cette publicité à destination des jeunes qui date de 1988. C'est bien criard, j'espère que vous avez retenu le numéro. Anaïs, avec Clubhouse, on est un peu plus dans la modernité. Ça ressemble à un mixte entre les talk shows à l'américaine et l'appli de vidéo TikTok.
Ça ressemble un peu à une émission de radio où les auditeurs appellent pour participer. Même en France, on peut penser au téléphone sonne. Il y a un des investisseurs de l'application qui me disait, en gros, on a pris la radio FM et on l'a refait à l'ère du smartphone. Mais c'est aussi une application à l'audio de plein de choses qui étaient déjà répandues sur Internet pour les autres formats, l'écrit, l'image, la vidéo. Donc les principes d'interactivité, mais aussi un brouillement des frontières entre qui est créateur de contenu et qui est consommateur de contenu. Donc ce qui a fait le succès de TikTok, par exemple, par rapport à YouTube, c'est que c'est super facile de créer une petite vidéo marrante et devenir soi-même créateur de contenu sur Internet. Et pour le moment, pour l'audio, c'était plus difficile. Et là, Clubhouse simplifie vachement ça.
Ça veut dire que tout le monde peut devenir Hanouna, en fait.
Exactement.
Qui sont les créateurs de Clubhouse? Comment est-ce qu'ils ont eu cette idée?
Alors, il s'agit de Paul Davison et Rohan Seth, qui ont tous les deux fait une carrière dans la tech au cours de la dernière décennie, après être tous les deux passés par l'université de Stanford. Et donc Paul Davison, c'est le PDG, c'est vraiment lui qui incarne l'application. Rohan Seth, c'est plus le techos qui est passé par Google, qui assure que ça marche derrière. Donc Paul Davison, en fait, dans la tech, certains le connaissaient déjà parce qu'il avait lancé pas mal d'applications mobiles au cours des 8 dernières années, sans grand succès jusqu'à Clubhouse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'était autour de cette idée de rencontre en ligne et de favoriser en quelque sorte leur sérendipité. Donc en 2012, il avait créé Highlight, qui était une application de rencontre fondée sur la proximité géographique. Et après, il avait inventé Shorts en 2016, qui était une application un brin voyeuriste, puisque ça proposait de partager la totalité de ses photos de son iPhone avec des inconnus. Après, il avait rejoint Pinterest, donc ce réseau social de collection d'images. Il est resté là-bas et puis bon, en 2019, il a eu à nouveau la fièvre de l'entrepreneuriat. Et donc, il s'est associé avec Rohan Seth pour lancer une nouvelle appli, d'abord plus centrée autour des podcasteurs. Donc, l'idée, c'était de les aider à faire des émissions en direct, à avoir plus d'interactivité avec leur public. Mais en fait, les émissions, elles étaient à une heure précise et ça marchait pas trop. Il y avait pas beaucoup d'engagement. Donc, ils se sont dit, et si on laissait juste les gens ouvrir l'application et faire leur truc quand ils veulent? Et ça, en fait, ça a donné Clubhouse.
Et je le disais, le cap des 8 millions de téléchargements a été franchi il y a quelques jours. Même si téléchargement, ça veut pas dire utilisation, l'application a connu un succès rapide?
Alors, pas vraiment rapide, parce qu'au départ, ils distribuaient vraiment très peu d'invitations. C'était super select, donc cet été, il y avait encore que 10 000 inscrits. Mais à partir du mois d'octobre, ils ont lancé l'application sur l'App Store dans d'autres pays que les États-Unis. Et ils ont vraiment accéléré le nombre de déploiements à partir du mois de janvier. Donc, dans pas mal de pays où ils se sont lancés, l'application a fini première en termes de téléchargement, en Corée du Sud, au Japon, en Suisse, en Italie, au Brésil, etc.
Et en France, on a une idée du nombre d'utilisateurs?
Oui, alors en France, ça décolle pas tellement que ça. Comparé aux autres pays européens, les derniers chiffres d'Apani, c'est 45 000 téléchargements en France contre 625 000 en Allemagne, 330 000 en Italie, 300 000 en Grande-Bretagne. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'invitations ou que le principe plaît pas trop aux Français? On sait pas trop, mais c'est intéressant. Erika Batista, qui est l'utilisatrice francophone la plus suivie de l'application, mais qui est une latino de République dominicaine, me disait qu'elle pensait que ça marcherait pas trop en France, parce que en France, on n'a pas le même rapport à la parole que dans les pays américains ou latins. L'idée d'avoir suffisamment confiance pour prendre la parole, même si c'est pas vraiment pour dire quelque chose de très intéressant ou d'intelligent, et puis de parler à des inconnus de manière assez sympathique et friendly, voilà, cette idée en anglais on dit chit-chat, de parler un peu pour rien dire, bah les Français, ils sont pas forcément aussi super à l'aise avec ça qu'un Américain ou un Latino.
En France, quelques politiques se sont déjà lancés dans l'aventure, comme les jeunes membres du gouvernement Clément Beaune, Gabriel Attal ou Jean-Baptiste Djebbari. Xavier Niel, le patron de Free, y a aussi ses aises. Dans un autre registre, certains ont pu écouter des interventions d'humoristes comme Jamel Debbouze ou Kian Khojandi. Sur Twitter, le 19 février, Jamel Debbouze avait ainsi lancé le rappel « Les amis, si vous voulez rire, discuter et passer un bon moment, retrouvez mes invités et moi ce soir sur Clubhouse à partir de 20h pour ma toute première room à ce soir. » Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais il y a dû avoir de bonnes vannes et pas mal de rires. Je me demande d'ailleurs ce que ça donnerait un trio avec Big Flo et Oli sur Clubhouse, une forme de retrouvaille de cette rencontre qui date de 2017.
Vous, quand on vous écoute, on a envie de pas se bagarrer, tu vois. On a envie d'aller dans une kermesse.
Ouais.
On a envie de manger de la barbe à papa, on a envie d'avoir des amis, d'être dans une colonie de vacances, tu vois. Toi, t'as une tête de gentil, toi, t'as une tête de poire. Vous avez physiquement, vous êtes gentil. Fronce les sourcils. Toi, tu fronces jamais les sourcils, j'ai remarqué.
Anaïs, Clubhouse, c'est un club pour échanger, pour parler, pour écouter, se retrouver. On peut parler d'une application confinement ?
Oui, clairement. Les utilisateurs à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils utilisaient Clubhouse pour combler la solitude du confinement. Il y en a pas mal, en fait, aussi, de gens qui se sont retrouvés des fois entre deux emplois ou sans emploi en plein milieu du confinement. Donc, ils s'ennuyaient chez eux. Donc, voilà, ça comble l'impossibilité de rencontrer de nouvelles personnes en vrai, d'aller à des conférences, de proposer des cafés pour essayer d'avoir de nouveaux contacts professionnels. Donc, c'est vraiment lié à ça. C'est aussi pour trouver une autre alternative à ce qu'on peut faire chez soi en période de confinement, qui est beaucoup basée sur des écrans. Donc là, c'est une appli qui surfe aussi un peu sur ce ras-le-bol des écrans, ce qu'on appelle des fois la Zoom fatigue, en quelque sorte.
Ce qui a fait le succès de l'application dans certains milieux, vous en parliez notamment en Californie, c'est aussi l'emballement de certaines stars pour Clubhouse.
Oui, c'est la présence de certaines stars qui amène beaucoup de nouveaux utilisateurs. Donc, d'abord dans le monde du business, on a eu Elon Musk qui a fait son apparition pour interviewer le PDG de Robinhood, qui est cette application de boursicotage qui fait fureur aux États-Unis en ce moment. Mais on y a aussi vu Mark Zuckerberg, on y a vu le PDG d'Instagram, on y a vu celui de Signal, le PDG de Shopify, le fondateur de Twitch. Donc toutes ces boîtes tech, en fait, tout le monde vient sur Clubhouse, et comme c'est en direct et qu'en principe les discussions ne peuvent pas être enregistrées, ça attire du monde pour dire « ah bah moi j'y étais, comme dans la vraie vie quoi ». Et donc, il y a aussi l'espoir derrière de pouvoir éventuellement parler à ces stars ou d'intervenir dans la conversation, ainsi de se faire remarquer. Parce que quand on a sa petite icône qui parle, tout le monde peut cliquer dessus et voir votre profil avec une description de qui vous êtes, etc. Et on a aussi vu, en dehors du business, des stars du monde de la musique, comme le rappeur Drake. On a vu Oprah Winfrey. On a vu, dans le monde du tennis, Serena Williams. Donc, pas mal de beaux noms.
Oui, et avec l'idée de pouvoir discuter avec ces personnes-là, en fait. Hein.
Oui, exactement, même si c'est pas toujours évident, parce que quand on est dans une room, par exemple, Elon Musk, très vite, ça atteint la limite de 5000 personnes dans la room. Pour être choisi par le modérateur pour parler, en général, en fait, il faut déjà qu'il vous connaisse et qu'il ait un peu une idée de ce que vous allez dire. Donc, il y a une limite dans cette idée de la démocratisation de l'accès aux grands PDG ou aux grandes stars.
It may seem like an unlikely invitation, but the Kremlin suggests Vladimir Putin might actually be open to a social media chat with Elon Musk. The CEO of Tesla and SpaceX used Twitter to invite Mr. Putin to join him in a conversation on Clubhouse, an audio-only app.
Une discussion entre Elon Musk et Vladimir Poutine sur Clubhouse, comme on l'entend sur CNN. Voilà qui en ferait sans doute l'une des rencontres les plus inattendues, sinon les plus lunaires. De quoi booster aussi le développement de l'application. Anaïs, vous racontez aussi dans votre enquête pour les Echo Weekends que Clubhouse a aussi profité du développement du marché des enceintes et écouteurs sans fil.
Tout à fait. Ben, on a vu beaucoup ces dernières années l'enceinte d'Amazon, Alexa, s'inviter dans toutes les maisons, notamment aux États-Unis. Ça marche très bien en Europe aussi, mais vraiment aux États-Unis, ça s'est très très vite répandu. Et aussi, en fait, le succès des écouteurs sans fil, notamment les AirPods d'Apple, qui permettent en fait d'être tout le temps connecté, d'avoir tout le temps la possibilité d'écouter quelque chose, on devient presque un cyborg, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement intégré dans l'oreille qu'on n'y pense même plus, et donc c'est très facile d'écouter quelque chose en permanence. On n'est plus lié à un fil, lié à son téléphone. Donc ça facilite en fait aussi le fait de pouvoir écouter des choses toute la journée en faisant autre chose en même temps.
Pour utiliser Clubhouse, il faut avoir été invité. Ce système d'invitation, est-ce que ce n'est pas un frein à son développement ?
Alors oui et non, parce que d'un côté, ça leur permet de générer un buzz gigantesque puisqu'ils suscitent l'envie, ils créent un côté VIP qui fait parler d'eux. Et ça leur permet aussi, dans ce temps, de raffiner l'application pour que quand ils ouvrent grand les portes, ça ne soit pas une catastrophe en termes de modération, en termes de ce qui s'y dit, des discussions qui sont permises, etc. Donc c'est ce à quoi ils travaillent pour le moment. Ils disent vraiment que leur but, c'est d'ouvrir l'application à tout le monde. Donc pour le moment, l'application est dispo que sur iPhone, mais ils travaillent sur une version Android pour les prochaines semaines ou les prochains mois, a priori.
On comprend bien l'idée hein, du club de discussion. On est dans l'audio. Alors, je ne devrais pas dire ça, moi qui fais du podcast, mais ce n'est pas moins bien que la vidéo quand on est dans une discussion avec des gens ?
Pas vraiment, parce qu'en fait, l'audio sans la vidéo, ça aide les gens à oser prendre la parole sans être intimidés, et puis aussi à la prendre à tout moment. Donc, il y a des gens, ils participent à Clubhouse quand ils sont en train de faire leurs courses, etc. Et ça permet, ce que me disait Erika Battista, donc cette utilisatrice francophone très suivie, qu'elle pouvait lancer une discussion dans son lit, en pyjama, elle n'a pas besoin d'être maquillée, etc. Donc, ça facilite le fait de se connecter et de participer, et aussi le fait de le faire à tout moment, donc parce que les yeux ne sont pas sollicités, donc on peut faire sa lessive, on peut faire sa cuisine, on peut faire son sport en même temps, etc. Après, c'est vrai que c'est sympa aussi de voir quand même les expressions faciales. Il n'y a pas cet élément-là quoi, qui peut manquer un petit peu par rapport à la vidéo.
Ça intéresse aussi les créateurs de podcasts avec un format qui peut se rapprocher finalement de ce que font les radios.
Oui, alors c'est assez différent des podcasts qui sont souvent très produits. Là, l'idée, c'est davantage de spontanéité, donc c'est en direct. Donc on peut prendre quelqu'un de l'audience pour monter sur scène, on va pas savoir ce qu'il va dire, on va pas savoir dans quelle direction il va partir. Mais de plus en plus, on voit des formats qui ressemblent plus à un podcast ou une émission de radio traditionnelle. Donc, par exemple, je parlais à cette auteure et coach allemande qui organise une émission hebdomadaire qui s'appelle Sleeping With, où elle interviewe des personnalités dans leur lit, comme par exemple, elle l'a fait avec la plus grande auteure de livres pour enfants allemands, la sorte de J.K. Rowling à l'allemande. Et donc, ces gens-là, ils me disaient, eux, ils ont trouvé ça beaucoup plus simple que de lancer un podcast. Ça peut se faire du jour au lendemain, ça demande pas 6 mois de planning, etc. Donc c'est une concurrence pour le monde des podcasts. C'est une menace aussi à prendre en compte.
Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut plus rien dire. Faut faire gaffe au radar, au motard, au pinard, au ric, au pétard, au clébard, au paplard. On peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Une chanson de Didier Bourdon qui date de 2005. C'est dire si le refrain n'est pas nouveau.
Bon allez, éteignez-moi tout ça là-haut. Monsieur Bourdon, vos papiers s'il vous plaît.
Anaïs, sur Clubhouse, on peut tout dire, c'est un autre avantage, c'est l'assurance d'une certaine liberté de parole.
En tout cas, au début, c'est ce que me disaient certains utilisateurs, c'était super libre parce que c'était vraiment un petit groupe. Puis l'audio, ça favorise ça aussi, ça a un côté authentique, intime, etc. Et le fait que ça soit en direct et que ça ne puisse pas en principe être enregistré, ça peut aussi ajouter à cette impression de pouvoir parler librement. Donc quand l'application elle a débarqué en Chine, notamment, les utilisateurs, ils s'en sont tout de suite emparés pour parler de sujets tabous. Donc le traitement des Ouïghours, ce qui se passe à Hong Kong, ce qui s'est passé à Tiananmen en 89. Et donc devant ça, le pouvoir chinois, il n'a pas tergiversé. Il a rapidement banni l'application de l'App Store le 8 février. Ce qui est inquiétant aussi par rapport à cette sensation de liberté de parole, c'est le fait que ça soit une entreprise de Shanghai qui s'appelle Agora, qui fournit l'infrastructure back-end de Clubhouse, la plateforme en fait qui permet d'offrir un service de transmission directe. Donc il y a une crainte que cette firme elle ait accès aux enregistrements audio et que si le pouvoir chinois fait pression, ils doivent lui fournir les enregistrements ou des métadonnées sur les utilisateurs. C'est des craintes hein, pour le moment, c'est pas confirmé, mais c'est un risque qui existe. Et de manière plus globale, il y a une illusion de liberté de parole. Comme en leur temps, on a pu espérer que les stories, qui sont ces vidéos éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures, qu'on a vu beaucoup sur Instagram, qui avait démarré sur Snapchat, elles donneraient une plus grande liberté en ligne. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. Très vite, il y a eu des captures d'écran des stories et le risque, il est similaire pour Clubhouse. On ne sait pas qui est dans la room. N'importe qui peut noter vos propos, voire les enregistrer via simplement un enregistreur et les diffuser ailleurs. Donc on a vu ça s'est passé par exemple, on a un ministre président d'un des lenders allemands qui a pensé qu'il pouvait parler très librement sur Clubhouse, donc il a qualifié Merkel de petite Merkel, il a avoué qu'il jouait à Candy Crush pendant des réunions sur le Covid, et en fait il y avait des journalistes dans la salle et tout est ressorti dans la presse et sur Twitter. Donc c'est un peu une fausse illusion.
Oui, il y a quand même cette liberté de parole, on peut dire tout Et n'importe quoi, j'ai envie de dire, il y a un risque que certaines discussions dérapent.
Oui, donc n'importe qui peut créer une room. Donc des fois, on a vu des rooms, des salons problématiques. Il y en avait un qui c'était des conseils pour apprendre à soumettre sa femme. Un autre, parce qu'en Afrique, ça a aussi été lancé dans certains pays, qui proposait de brûler les LGBT Somalis. Donc clairement, il y a des problèmes. Et le problème aussi, c'est que c'est le créateur de la room qui est le modérateur. Donc, c'est assez compliqué. Après, Clubhouse essaye de créer plus d'outils pour éviter que ça parte, que ça dérape complètement. Donc, par exemple, il est possible de muter, c'est-à-dire d'empêcher une personne de continuer à parler. Le modérateur peut faire ça si une personne à qui il donne la parole se met à dire des choses problématiques. Il peut aussi le sortir de la salle, le signaler, et Clubhouse va réécouter l'enregistrement et prendre une décision d'exclure ou non la personne du service. Et l'équipe a aussi introduit la possibilité de bloquer quelqu'un. Donc, si vous bloquez cette personne, elle ne pourra pas entrer dans les salons de discussion où vous êtes. Alors, ça pose des questions. Par exemple, certains capital risqueurs ont bloqué des journalistes qui ne peuvent donc plus aller écouter ce qu'ils disent à des événements qui ressemblent pourtant, en fait, à des conférences. Mais ça peut permettre aussi de se protéger d'un harceleur ou d'un troll, etc. Après, moi, mon expérience, c'est le fait que ça soit à l'oral et aussi qu'il n'y ait pas d'anonymat sur Clubhouse. Je trouve qu'au final, il y a moins de haine quotidienne que ce qu'on peut observer sur Twitter ou Instagram, par exemple. Parce que c'est plus facile d'écrire des horreurs à l'écrit derrière un pseudo que de le faire avec son vrai profil à l'oral.
Vous y passez beaucoup de temps, vous, sur Clubhouse ?
Alors, j'y ai passé pas mal de temps pour ce papier, pour essayer de découvrir différentes rooms. Donc, c'était assez marrant parce qu'il y a des rooms où c'est des artistes en live qui vous jouent des espèces de comptines pour vous endormir le soir. Des fois, on vous propose des experts sur la Chine qui vont discuter de ce qui s'y passe, des experts sur l'énergie, beaucoup de choses de start-upers qui essayent de vendre leur start-up, de pitcher. En fait, il y a pas mal de pitchs qui se font sur l'application. On y trouve vraiment absolument tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, l'algorithme, il est pas hyper raffiné. Donc, il y a un petit côté comme ça où on sait pas trop sur quoi on tombe, qui... Alors, fait que certaines personnes vont trouver pas du tout ça intéressant, mais ça peut aussi être assez séduisant parce qu'on se retrouve un peu à explorer des choses qui se passent dans tous les pays du monde. Donc, moi, je trouve que c'est assez marrant.
Clubhouse, c'est un vrai réseau social. On y trouve finalement ce qu'on y amène. Mon confrère de chez Challenge, Adrien Schwitter, racontait dans un article être tombé sur une room intitulée Le rendez-vous des hypersensibles et au potentiel zèbre, juste une discussion ouverte pour se sentir moins seul et moins bizarre. Clubhouse est né il y a environ un an et sa valorisation explose déjà ?
Oui, alors de manière un peu artificielle, comme souvent avec les startups ces dernières années, comme on a pu le voir avec WeWork par exemple. Donc, c'est Andreessen Horowitz, qui est un célèbre fonds de la Silicon Valley, qui a investi dans Facebook, dans Airbnb, etc., qui a mené un premier tour de financement au printemps de 10 millions de dollars. Puis, il a rajouté 100 millions en janvier, ce qui a fait grimper la valorisation à 1 milliard de dollars, et donc ce qui permet d'atteindre ce fameux seuil où on parle de licorne. Et beaucoup l'ont interprété comme une manière, en fait, de vouloir mettre un stop à Twitter ou Facebook qui tournerait autour de Clubhouse pour acheter l'entreprise en faisant gonfler la valorisation et faire que l'entreprise devienne de plus en plus chère.
Alors, 1 milliard de dollars, c'est donc une licorne. L'application, elle est gratuite. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre ?
Alors, pour le moment, justement, ils vivent en utilisant les fonds des capital risqueurs qui misent sur eux, parce qu'ils n'ont pas encore de revenus. Mais ils comptent bientôt introduire une monétisation en permettant aux créateurs de monétiser leur contenu, et Clubhouse prélèvera une commission sur ses revenus. Donc, il y aura la possibilité de demander une donation, comme les streamers de jeux vidéo le font sur Twitch, par exemple, ou de réserver certaines rooms à des abonnés qui seraient prêts à payer quelques dollars par mois pour accéder à ces discussions-là. Donc, a priori, les fondateurs, ils excluent l'idée de publicité, donc un modèle proche de Facebook, pour privilégier plus cette idée de prélever une commission sur des créateurs qui arrivent à faire de l'argent sur leur contenu. C'est la grosse tendance qu'on voit depuis 2-3 ans sur Internet avec des entreprises comme Patreon, OnlyFans, etc. Mais Clubhouse teste quand même quelque chose qui est pas si loin de la publicité, qui sont des rooms sponsorisés. Donc on a par exemple un jeu de trivia où on peut gagner de l'argent sur Clubhouse via l'application Cash App. Cette application, ça appartient à Square, qui est l'entreprise de paiement, qui est l'autre entreprise du patron de Twitter, et qui sponsorise cette room. Donc c'est une forme quand même de publicité.
Clubhouse, c'est un outil de discussion entre membres d'un même réseau. On est quand même dans l'entre-soi. Est-ce que ça ne risque pas de tourner en rond, notamment lorsque la pandémie ne sera plus qu'un mauvais souvenir ?
Si, il y a clairement un risque de se lasser. Les discussions ne sont pas vraiment toujours intéressantes par rapport notamment à un podcast édité, pensé, où vous savez la valeur que vous allez tirer en une demi-heure d'écoute. Là, vous ne savez jamais si ça va être intéressant ou pas. Et comme je disais, l'algorithme de recommandation, il n'est pas vraiment encore au point. Donc des fois, on propose des choses, j'y trouve pas grand intérêt. Donc voilà. Et les gens ont aussi tendance à utiliser ce réseau pour faire leur pub, pour mettre en avant leur profil. Donc il y a une sorte de course à l'ego qui peut très très vite lasser. Et l'autre menace, c'est la concurrence des big tech, disons, de Facebook qui travaillerait sur une fonctionnalité similaire, et surtout Twitter qui teste Audio Space, qui a à peu près la même logique. Pour le moment, c'est plus petit, c'est des rooms, je crois que c'est 10 personnes maximum, mais leur idée, c'est d'étendre ça. Spotify aussi, hein, qui songe à introduire plus d'interactivité dans les podcasts. Donc, il y a beaucoup de menaces. Après, avec la fin de la pandémie, on peut aussi penser que l'usage va diminuer, que les gens voudront quand même se revoir en face à face, peut-être à nouveau organiser des conférences, et que donc ça aura moins d'intérêt.
On pourra alors retourner au comptoir du bar PMU près de chez soi et profiter aussi des conversations des convives, façon brève de comptoir.
Les cèpes, il faut les cueillir petits. Si tu attends trop, on les a cueillis avant toi. Logique.
Merci Anaïs Moutot, journaliste aux Echos Weekend, pour cette découverte de Clubhouse. Vous pouvez retrouver son article sur le site des Echos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.